Petit message pour m'excuser de la qualité très très médiocre de ma piste voix. J'ai eu un petit problème de micro. Donc voilà, ce n'est pas la qualité habituelle. J'espère que ce sera quand même audible pour vous. Et désolée à Charline qui va s'occuper du montage de cet épisode.
Soyons honnêtes, hein, avons à tous nos auditeurs dès maintenant que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode.
Ça me perturbe parce que du coup, on enregistre après l'épisode suivant que les auditeurs vont écouter après. On est à la fois dans le passé et dans le futur.
Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore un chocolat chaud et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
Et aujourd'hui, on va parler même de ce qui nous plaît particulièrement, puisqu'on a décidé, pour la première fois de notre début de podcast, d'élire les Popcorn d'or 2022. C'est-à-dire, on va remettre des petits prix aux films qu'on a vus durant l'année 2022.
Ouais, donc c'est notre cérémonie... Cérémonie personnelle à l'heure où, au moment où on enregistre, vient d'y avoir les Golden Globes. Donc voilà, on se met à l'heure des cérémonies récompenses et on décerne voilà, le prix que j'imagine tout le monde attend désormais, les Popcorn d'or.
Donc on va commencer par la première catégorie. Et alors pour jouer un petit peu sur voilà, le côté popcorn, le côté nourriture, puisqu'avec Marjo aussi on aime manger. On a décidé que chaque catégorie porterait le nom d'un aliment. Et on commence par la catégorie l'oignon d'or. Et contrairement à ce que Thibaut, mon mari, pensait, ce n'est pas le film qui pue le plus, mais bien le film qui nous a fait le plus pleurer.
C'est pas non plus celui qui a le plus de couches, hein, c'est bien. c'est... qui fait pleurer. Et oui. Et c'était pas évident pour moi, l'oignon d'or, même si je pleure très 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 souvent devant les films. En regardant un peu tous les films que j'ai vus cette année, il n'y en a pas un particulièrement où je me suis dit celui-là, il m'a marqué parce que j'ai pleuré devant. Mais du coup, je retiendrai quand même Armageddon Time de James Gray, voilà, que j'ai vu en fin d'année. Et qui est typiquement un genre de film où on verse sa petite larme ou sa grosse larme, ça dépend de sa sensibilité. Mais voilà, c'est une histoire familiale où, voilà, qui est pseudo-biographique pour James Gray, où on suit voilà, l'enfance d'un enfant dans le... Ah, je ne sais plus si c'est dans le Bronx. Non, c'est pas dans le Bronx, c'est dans un quartier
Queens,
de New York.
Peut-être.
Le Queens. Ouais, je crois que c'est dans le Queens. Voilà, dans les années 80, son amitié, donc un enfant d'immigrés juifs, et son amitié avec un jeune noir. Voilà, son rapport avec ses parents, avec son grand-père, qui est très 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 mignonne. Son grand-père est joué par Anthony Hopkins. Et du coup, comme toute histoire à la fois mignonne, familiale, et qui aborde aussi le contexte social dur de l'époque, ça fait monter des émotions. Et donc, j'ai versé ma petite larme, c'est sûr, devant Armageddon Time. Et c'est un très, très beau film. Donc, je lui décerne mon oignon.
Alors, moi, ça n'a pas été facile non plus. Parce que même si je suis vraiment de la team Madeleine, c'est pareil. Il n'y a pas de film 2022 qui m'a fait vraiment pleurer. Enfin, j'ai vu des films qui m'ont fait pleurer là, durant l'année. Mais ce n'était pas des films 2022. Typiquement, j'ai vu Star is Born pour la première fois. Ouais, j'ai versé ma larme. Mais c'est un vieux film. Donc, je ne peux pas lui décerner l'oignon d'or 2022. Ce n'est pas possible. J'avais pensé à Belfast de Kenneth Branagh. Parce que j'ai pas pleuré au cinéma, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'est un film hyper émouvant. Et en fait, je crois même que j'ai décerné lors de notre premier enregistrement l'oignon d'or à ce film. Mais avec du recul, je me suis souvenue d'un film où j'ai vraiment eu la larme à l'œil, la petite larme qui a coulé. En fait, c'est Black Panther. J'y avais pas pensé sur le moment, je ne sais pas pourquoi. Dû au décès de son acteur, il y a quand même toute une partie assez émouvante là-dessus. Et puis, il y a un autre événement qui se passe dans le film qui m'a encore plus émue, enfin, de manière différente, puisque là, je savais que la personne n'était pas vraiment décédée, mais en fait, ça a été du coup le combo, et j'ai vraiment pleuré au cinéma, pas non plus à grosses larmes, mais voilà, c'est vrai que j'y avais pas pensé, et donc voilà, je décerne mon nom d'or à Black Panther, Wakanda Forever.
Que je n'ai pas vu, donc... Je verrai.
Ouais, je te le conseille parce que j'étais vraiment très déçue des Marvel récemment et c'est le seul que j'ai beaucoup aimé.
Mais la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas vu, c'est que au moment où il est sorti, j'avais pas de séance en VO à côté de chez moi et j'avais pas envie de payer plus cher pour avoir de la VO. Donc c'est vraiment parce que je voulais absolument le voir en VO,
ouais,
et pas en VF que je l'ai pas
raison,
vu.
T'as raison, il parle français à des moments dans le film, donc c'est toujours un peu bizarre quand. Ouais. Quand c'est le cas.
Et je me souviens, pour avoir vu le premier en VF et en VO, ça m'avait... Enfin, comme les accents sont importants dans ce film, ça m'a fait vraiment bizarre en VF. Donc,
t'as eu raison.
Voilà. Mais je m'attends à pleurer aussi, parce que, évidemment, le décès de Chadwick Boseman m'avait énormément touchée. Et puis l'émotion générale autour, forcément, on ne pouvait que être touchée. Donc, je m'attends effectivement à le mettre dans la catégorie oignon aussi, quand je le verrai.
Alors, notre deuxième catégorie, c'est ma catégorie préférée, puisque vous me connaissez maintenant, je suis très fleur bleue, et il s'agit de la Guimauve d'or, donc le film romantique de l'année. Je décerne mon prix à l'amant de Lady Chatterley, de Lord de Clermont-Tonnerre, qui est présent sur Netflix. Et je ne veux pas dire que c'est le film de l'année, c'est une comédie romantique très belle, très mignonne, voilà. En fait, l'histoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est tirée d'un livre. Il y a eu beaucoup d'adaptations en film. Et en fait, c'est Lady Chatterley, donc qui est mariée à un riche anglais, qui est blessé et qui est très tétraplégique après la guerre, et qui lui autorise à avoir un amant afin qu'il ait une succession, qu'il ait un enfant. Et elle va tomber amoureuse de son amant, ce qui ne va pas plaire à son mari, puisque ce n'est pas un bourge, mais le garde-chasse, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était très belle. Ce qui m'a en fait particulièrement plu, et j'en avais parlé avec Edwige, il me semble, parce que quand je lui ai dit « Oh, j'ai trouvé ça dingue, blablabla », elle me dit « Cherche pas, la réalisatrice est une femme ». Et donc, je vous explique maintenant. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de sexe et de nudité. Ça, c'est quand même voilà, à savoir. Hein, pour ceux que ça dérange, ne le regardez pas, parce qu'on voit tout, clairement. Mais en fait, je trouvais que les scènes de sexe étaient vachement vues du point de vue de la femme. Et ça changeait énormément aux autres films où on a l'habitude vraiment de voir le plaisir masculin et de voir des scènes qui ne sont pas forcément hyper réalistes. Et là, tout l'inverse. Et ça m'avait vraiment marquée. Et quand j'en ai parlé à Edwige, elle m'a dit... C'est une femme qui a réalisé ça. Et effectivement, donc bravo. Et bravo pour la Guimauve d'or.
Alors, ça me donne envie. Franchement, je pense que je le regarderai. Tu m'avais déjà donné envie au moment du premier enregistrement. Je n'ai toujours pas vu. Mais ouais, donc je le retiens. Il faut que je le voie. Moi, j'ai pas vraiment dans ma liste de films de films vraiment catégorisés romance qui m'ont beaucoup plu. Du coup, j'ai choisi un film où il y a de la romance, mais c'est pas forcément le cœur de l'intrigue, c'est Encore, de Cédric Clapiche. Et ça tombe bien parce qu'au moment où va sortir cet épisode, je pense qu'on va s'approcher de la semaine Festival Télérama, et je crois qu'il ressort dans le cadre du Festival Télérama, donc ça peut vous donner peut-être envie d'aller le voir. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une danseuse étoile qui se blesse assez gravement au début du film. Je spoil pas, hein, c'est le principe, c'est l'amorce du film. Elle se blesse et du coup ça l'oblige à quitter la danse classique, le temps de se remettre sur pied. Et du coup, c'est une blessure qui la marque psychologiquement, parce qu'en plus elle intervient au même moment où elle rompt, on va dire, avec son petit copain de l'époque. Donc, tout se passe en même temps. Donc, pour elle, c'est vraiment psychologiquement très, très dur. Et pour s'en remettre, elle va s'isoler un peu dans une résidence d'artiste qui est vraiment paumée au milieu de la campagne. Et elle y va juste en tant que cuisinière, aide, enfin juste pour se poser tranquille. Et dans cette résidence, il y a un groupe de danseurs, une troupe de danse contemporaine qui arrive pour faire une bonne résidence. Et en fait, ça l'intrigue et ça lui redonne envie de danser. Et c'est à travers la manière dont elle va retomber amoureuse de la danse, un peu qu'on suit sa reconstruction. Et en même temps, voilà, que retomber amoureuse de la danse, elle tombe aussi amoureuse d'un danseur. Voilà. Donc il y a la petite romance qui va avec, mais qui n'est pas forcément au cœur de toutes les scènes, mais l'amour est quand même assez présent dans ce film. Et je l'ai retenu dans ma Game of Door parce que c'est traité de manière très douce, mais en même temps pas trop appuyé, assez pudique entre guillemets, même si c'est pas chaste, hein, mais c'est voilà, j'ai trouvé ça assez assez touchant et très délicat, donc voilà, je retiens encore pour ma Game of Door.
Ouais, il me donne vraiment envie ce film, j'espère avoir le temps d'aller le voir cette fois-ci.
Et pour le prochain, on va décerner notre bonbon d'or.
Je suis sûre que tu vas changer d'avis.
Ah bah, j'hésite. Franchement, j'hésite. Le bonbon d'or, c'est pour le film d'animation de l'année. Et donc, pourquoi Charline suggère que j'ai changé d'avis, c'est parce que... Alors, le fait est que j'ai vu un film sorti tout à la fin de 2022, mais je l'ai vu en 2023. Alors, est-ce que je peux le compter dans...
Il était nommé au Golden Globe 2022. Il n'a pas eu de prix, mais il était nommé.
Ah, donc effectivement, j'ai vu tout récemment Le Chapeauté 2 et que j'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé vraiment très, 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 très sympa. Et c'est vrai qu'en termes de pur plaisir de visionnage et aussi de qualité d'animation, ça pourrait être mon bonbon d'or. Et en fait, je réalise qu'il y a plein de films qui auraient pu avoir mon bonbon d'or dans cette année, parce que je n'avais pas mentionné la dernière fois, mais j'aurais pu le donner aussi au Monstre des Mers sur Netflix.
Ah oui, je ne l'ai pas vu celui-là.
Que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi. Et la dernière fois, je l'avais donné encore à un autre film, Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui aurait pu être dans l'Oignon d'or, parce qu'il m'avait fait beaucoup pleurer et que j'avais... J'avais énormément aimé, pour les amateurs de Sempé et Goscinny. Voilà, ça raconte la création du petit Nicolas autour de la rencontre entre Sempé et Goscinny. Donc on a à la fois des petites aventures du petit Nicolas et aussi des scènes entre les deux sur leur amitié, un peu sur leur parcours, etc. Il m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc je l'avais décerné au petit Nicolas. Pour cette deuxième essai, c'est dur de savoir pour qui je le donne, mais je pense que pour la qualité de l'animation, enfin pour le package, qualité d'animation, plaisir de visionnage, humour, émotion, etc., c'est vrai que Le Chapeauté 2, je pense qu'effectivement il mérite mon bonbon d'or, puisqu'il n'a pas eu le Golden Globe, peut-être que j'ai une sorte de revanche avec le bonbon d'or, donc pour Le Chapeauté 2. Mais c'était une très très bonne année pour l'animation, je trouve. Pas avec les studios qu'on a l'habitude, puisque c'est pas un Pixar ou un Disney à qui je donne, mais tu vas peut-être rattraper ça avec le tien.
Ouais, bah justement, moi je vais le donner à un Disney qui a été un de mes coups de cœur, et je pense que c'est un de mes coups de cœur depuis Encanto. J'avais pas eu... un coup de cœur depuis Encanto, il y en a que j'ai bien aimé, hein, que j'ai trouvé sympa, mais pas, voilà, pas à ce moment-là. C'est Alerte Rouge de Domichi, qui du coup est lauréat de mon bonbon d'or, puisque c'est vraiment un film qui m'a fait mourir de rire. J'aurais pu lui donner un autre prix dont on va parler tout à l'heure, qui m'a fait mourir de rire, et en même temps, je l'ai trouvé hyper inclusif, hyper moderne. Le fait de parler de règles, par exemple, dans un dessin animé, c'est quand même waouh, quoi, enfin, c'est un grand début. Hyper réaliste, et puis pour une fois, vraiment la culture asiatique bien représentée. Voilà, je l'ai trouvé super, et je l'ai vu deux fois, parce que je l'avais vu une première fois, puis après j'ai voulu le montrer à Thibaut, et les deux fois, vraiment, pareil, je me suis éclatée devant. J'ai même envie de le revoir une troisième fois maintenant. En tout cas, voilà, ça a été un beau coup de cœur, et je suis très contente que globalement, dans l'ensemble, les avis sont plutôt positifs. C'est pas non plus un sans faute, mais... Et par contre, ma petite déception, bah, c'est qu'il soit pas sorti au cinéma, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas, mon bonbon d'or va à Alerte Rouge.
Ouais, moi j'avais beaucoup aimé, et c'est clair que dans les productions Disney, et même en incluant Pixar aussi, c'est clairement ma préférée. Mais bon, il y a eu tellement de bons films d'animation, enfin j'ai vu tellement de bons films d'animation cette année que il ne m'a pas autant touchée, même si j'ai beaucoup rigolé aussi. Et en plus, bah, ça, en tant que enfin, comme ça traite vraiment de la culture des années 90, début 2000, ça nous parle, quoi. Donc,
c'est ça, exactement.
On a les private jokes.
Alors, la prochaine catégorie, il s'agit de la tartiflette d'or. Et il s'agit du coup du film de Noël slash d'hiver de l'année. Alors, j'en ai vu plusieurs, moi, sur Netflix cette année, mais j'ai trouvé ça très décevant. Pourtant, je m'attendais vraiment avec... y a un film avec le mec de Glee, je sais plus son nom, Cord Overstreet, je crois, mais bof. Y avait un téléfilm de Noël avec Mena Massoud, qui est un de mes crushs sur Prime, mais il était pas terrible non plus. voilà. Mais le seul que j'ai bien aimé, c'est le seul que tu as vu, donc on sera unanime sur cette tartiflette d'or, et il s'agit de
Noël Diary.
Bon, il y a quand même un acteur connu et qui fait partie de mes crushs aussi dans ce film. Donc, ça joue aussi, j'ai beaucoup, je pense.
je ne me souviens jamais de son nom, mais qui est dans This Is Us.
Justin Hartley.
Justin Hartley, voilà. Et moi, du coup, c'est le seul nouvelle sortie de film de Noël que j'ai regardé. Donc, je suis contente d'être tombée sur un bon cru. C'était très mignon, pas trop gnangnan, mais bon, avec quand même les bons sentiments qu'il faut dans un film de Noël. Et j'étais surtout marquée par le fait que tous les personnages dans ce film sont gentils. Que vraiment, ouais, tout le monde est gentil, a des bonnes intentions. Il n'y a pas de... on n'est pas dans la caricature des films de Noël où c'est les gens pénibles et qui ont plein de défauts qui s'améliorent dans le film pour devenir finalement gentil. Là, tout le monde est gentil du départ et a plutôt des choses personnelles sur lequel travailler au niveau de leur surtout de leur histoire familiale et du coup l'histoire d'amour qui est au milieu et marche très bien. Les deux acteurs sont très beaux et belles et du coup c'est ambiance un peu road trip en plus et je trouve que ça marche toujours très bien. Moi j'adore les films de road trip donc ouais c'est
ouais, c'est ouais il fait pas film de Noël cliché ou film de Noël téléfilm TF1. Mmh. Je trouve qu'il a, quand même une espèce d'authenticité. Il sort du lot. Voilà. C'est pas le film de l'année non plus, mais il sort du lot.
Et on enchaîne avec notre prochaine catégorie, le panais d'or. Alors là, il faut une petite explication. panais, pourquoi panais? C'est un vieux légume. Un vieux légume. Du coup, c'est pour nos films historiques préférés de l'année.
Ouais, celui-là, il était un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Je mangeais du pané la veille, et du coup, je me suis dit, oh tiens, et si on faisait une catégorie pané?
C'est quand même mieux, voilà, que le vieux crouton d'or, hein, quand même, qui était l'autre possibilité.
Ouais, qui était l'autre option, c'est vrai. Bah en fait, le vieux crouton d'or, ça fait un peu quand même négatif.
C'est ça.
Alors qu'au final, ces deux films, on les a beaucoup aimés.
Oui, bah oui, puisqu'on leur décerne un prix, donc c'est sûr. Après, voilà, est-ce que c'est des films dans lesquels on mange du pané? À voir. Le mien, je suis pas sûre qu'il mange du pané. Puisqu'il s'agit, pour moi, le meilleur film historique de l'année, c'est The Northman de Robert Eggers. Et donc un film de viking, ambiance viking, que j'avais pas mal d'attentes parce qu'il m'avait pas mal hypé quand j'avais appris qu'il y avait ce film-là. J'aime bien de toute façon les histoires de vikings en général. Et en fait, l'histoire alors, est assez classique puisqu'en fait, c'est une... ça reprend le mythe qui est à l'origine de l'histoire d'Hamlet, je crois, qui est aussi l'histoire du Roi Lion, pour ceux qui connaissent pas, qui connaissent plus, oui, le Roi Lion que Shakespeare. Mais c'est la même histoire, en fait, du fils du roi, ou là, du chef, dont le père est tué par son oncle et qui est banni, et puis qui va revenir pour se venger, etc. Donc, voilà, moi ça m'a beaucoup, beaucoup plu pour le visuel. Ça s'est tourné en Islande, c'est tout tourné en décor naturel. C'est très 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 réaliste. Il y a eu énormément de travail historique sur la reconstitution des costumes, des accessoires. Et quand on creuse un peu, quand on regarde un peu des analyses, même des spécialistes sur le film, ils sont tous hyper impressionnés par à quel point les acteurs... portent quasiment des pièces de musée, quoi, des reproductions de pièces de musée. Donc voilà, pour les fans d'histoire, c'est du petit lait. Et puis bah voilà, c'est une histoire épique avec avec tout ce qu'il faut, un très très bon casting, Alexander Skarsgård qui est très très bon, Nicole Kidman qui est hyper impressionnante aussi, donc voilà. Je suis déçue qu'il n'ait pas plus marché que ça, parce que c'était censé être un peu un blockbuster alternatif, et il n'a pas tant bien marché que ça au box-office, et c'est dommage, mais ouais, si vous l'avez raté, que vous avez l'occasion, et que c'est votre genre de film, et que vous avez l'occasion de le rattraper, je le conseille à fond, et je lui décerne mon panier d'or.
J'ai vu une bande-annonce, je crois, parce qu'il est dû passer sur Canal ou un truc comme ça, je sais plus, peu de temps après notre premier enregistrement. Il faut qu'on arrête de faire ça. et ça a l'air grave bien.
Ouais.
Voilà. Ah, mais, ouais. Alors moi, mon film historique, il est un peu plus récent, puisqu'il s'agit d'un film qui... Alors, j'allais dire, lors de notre premier enregistrement, il était encore en salle, parce que j'avais vu une avant-première. Bon, je pense qu'on doit encore le trouver actuellement. Il s'agit de Nos frangins de Rachid Bouchared. Et il s'agit d'un drame français qui évoque l'affaire Malik Ouskine et l'assassinat d'Abdel Ben Yahia en 86. Donc, de deux Algériens, en fait, en France, liés à la police. Et en fait, donc j'ai eu de la chance au Méliès de Montreuil de rencontrer l'acteur et les réalisateurs, enfin les réalisateurs et le réalisateur, puisque les acteurs viennent de Montreuil, donc voilà, pour eux c'était à la maison, hein, ils se sont déplacés, voilà, assez facilement je pense, enfin plus facilement que voilà. Et c'était hyper sympa de discuter avec eux de ça, et puis c'est des affaires quand même qui ont marqué la France. Moi je sais que je connais, grâce à des séries ou effectivement des téléfilms, ou je connaissais surtout l'affaire Ouskine, pas trop celle d'Abdel, mais je trouve que c'est bien de faire ce genre de film, parce que ça montre que c'était pas si longtemps que ça, qu'il faut pas non plus que ça se reproduise, et voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, je l'ai trouvé... pas dans le pathos, très honnête, très bons acteurs, vraiment top. Je le conseille fortement. J'en avais fait une chronique avec Pause Popcorn. Si vous voulez la retrouver, elle est toujours dispo. Donc voilà, mon panier d'or, Nos frangins.
Ah, ça donne envie. Moi, c'est des affaires que je connais pas. Donc rien que pour m'éduquer, je pense que ce serait un bon film à rattraper.
Alors la prochaine catégorie, c'est le burger d'or. Et comme le burger, c'est un peu le plat américain, classique, fat, voilà. Eh bien, il s'agit de notre blockbuster de l'année. Et on a été quand même gâtés, hein, parce qu'il y en avait beaucoup des blockbusters cette année, et du haut niveau, et pas des blockbusters... parce que moi, il y a plein de blockbusters que j'aime pas du tout, genre Fast and Furious, tout ça, c'est vraiment pas ma cam. Mais là, c'était des films que j'attendais avec impatience. Et franchement, mon choix est très très dur entre The Batman et Top Gun 2. Et je ne sais même plus à qui je l'avais décerné.
Ouais, bah moi aussi j'ai un peu d'hésitation, bah, notamment entre The Batman et Top Gun Maverick. Alors à la base, j'avais aussi mis Compète avec Avatar, parce que je l'avais vu assez récemment au moment où on en avait enregistré, j'étais encore... un peu les étoiles dans les yeux de la prouesse visuelle. Plus j'y repense au film, plus je me dis que j'ai passé un très bon moment devant, comme devant The Batman et devant Top Gun Maverick. Mais The Batman, ça date quand même de mars, et j'ai toujours une impression très forte de l'histoire, des émotions que ça m'a fait ressortir, des images. Il y a des plans qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Top Gun, pareil, ça date de cet été, et ça m'a... Enfin, je me souviens encore des émotions fortes que j'ai eues devant ce film. Et puis le côté vraiment montagne russe, on va dire. Avatar, ça fait que quelques semaines et j'ai déjà plus de réserves qu'à chaud. Enfin voilà, c'est pas forcément un film que j'ai envie de revoir tout de suite. Je suis très 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 contente de l'avoir vu dans des très très bonnes conditions. Visuellement, on fait pas mieux au niveau effets spéciaux aujourd'hui, ça c'est clair, ça, c'est au-dessus de tout le reste. Mais ça suffit pas pour un bon blockbuster, et même si je défends quand même, il a des gros défauts Avatar, mais je défends quand même comme étant un film devant lequel on passe un bon moment. Je crois que mon cœur va à The Batman, parce que il était très très attendu, et il aurait pu beaucoup décevoir, et moi il m'a pas du tout déçu, et ça va rester un de mes films marquants de l'année, quoi.
Ouais. Ouais, bah en fait, pour à peu près la même raison, je vais choisir The Batman aussi. En fait, je trouve que peut-être la réalisation était un peu plus originale et The Top Gun de Maverick, j'ai adoré, mais aussi parce que j'étais une grande fan de Top Gun de base, et qu'en fait, ils ont repris un peu tous les codes, ils ont joué grave sur la nostalgie, en gardant, en le modernisant un petit peu, en étant moins sexiste, mais tout en gardant le côté nous sommes les Américains très forts, nous sommes les meilleurs. Voilà. Mais du coup, ça partait quand même sur de bases solides, alors que The Batman, Robert Pattinson, tout le monde était là en mode il va être nul et tout. Et du coup, il partait avec vraiment un handicap, je vais dire, surtout vu la trilogie de Nolan, etc. Et j'ai adoré tout. La réalisation, la photographie, les acteurs, l'histoire, tout. Donc, ouais, The Batman.
Non, puis ouais, pour des scènes qui vont rester marquantes, moi je reste quand même marquée par cette scène avec cette voix off de Batman qui explique ce que représente Batman pour les et cette menace dans l'ombre, etc. Et le fait et la peur qu'il incarne pour les malfaiteurs, etc. Enfin, ouais, pour moi c'est rien que
Ouais,
pour cette
c'était
scène.
super. Ouais, non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord.
Ouais, donc. Mais j'ai hâte de le revoir parce qu'en fait, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Et en fait, j'ai là, pour le coup, dans tous ceux qu'on a cités, alors Top Gun, c'était trop bien, mais c'était surtout bien au cinéma. Je sais pas si ça fera le même effet sur petit écran. Mais The Batman, peu importe, j'ai envie de le revoir, quoi.
Moi, les deux, j'ai envie de les revoir, mais bah, c'est pareil, The Batman sur grand écran, quand t'es vraiment dans le
Ouais,
noir et tout.
ouais,
Mais ouais, je verrai les deux.
ouais. Ouais.
Je verrai les deux.
On enchaîne avec la Banane d'Or pour le film le plus drôle, la meilleure comédie de l'année. J'ai pas vu tant de films vraiment très drôles cette année. Voilà, il y a pas mal de films qui m'ont fait rire, mais c'était pas forcément l'intérêt principal du film. Mais je retiens quand même un film qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait beaucoup rire, c'est The Duke de Roger Mitchell. Michel. Petite comédie britannique, très très sympa, que tu m'avais conseillé, Charline, et que vraiment j'ai passé un très bon moment devant. Le pitch, c'était donc ça se passe en Angleterre dans les années, enfin, pas si longtemps que ça, mais bon, quand même, je sais pas.
J'aurais dit 80, non?
Ouais, probablement. Et on suit donc c'est Jim Broadbent, je crois, qui est le rôle principal, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne confonds pas avec un autre, mais
Oui, c'est lui.
c'est ça. Qui joue du coup un peu un vieux, j'allais dire anarchiste presque, en fait,
Presque, un vieux rebelle.
de
Et c'est les
vieux
années
rebelles.
60.
C'est ça, ouais, années 60, plus vieux quand même. Qui du coup, en signe de défiance envers le gouvernement, qui veut le taxer, poser une taxe sur la télé, va voler le portrait d'un duc qui est exposé à National Gallery, il me semble, quelque chose comme ça, et pour en signe politique que voilà, cette peinture appartient au peuple, et du coup c'est toute une histoire un peu absurde mais vraie, puisque c'est une histoire vraie, de ce cambriolage complètement improbable, et avec une narration non linéaire, donc en fait on suit le procès et avec des flashbacks, on va dire, enfin des moments à travers le procès, puis à travers des scènes, on comprend petit à petit comment le cambriolage s'est passé et comment il a réussi à cacher la peinture. Et voilà, c'est un humour anglais absurde qui m'a beaucoup plu et en même temps c'était assez touchant, les personnages sont touchants, donc voilà, le Banane d'Or pour The Duke.
Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, The Duke, c'était ma copine Laurie qui me l'a conseillé. Et donc, je la remercie parce qu'effectivement, c'était très drôle. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et si j'avais pas vu l'autre film, je pense que ma Banane d'Or aurait été pour The Duke. Pareil, j'ai réfléchi après coup. Quand on a fait notre liste de films qu'on a vus cette année et du coup, des prix à décerner, j'avais pas pensé à ce film-là et j'y ai pensé maintenant. J'aurais pu aussi le décerner à Amsterdam, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très drôle, et à Coup de théâtre. Coup de théâtre, j'étais vraiment morte de rire devant. C'est un super film avec Adrien Brody, etc. Enfin, vraiment, c'était mais très, très, très drôle. Mais j'ai vu un film qui a été vraiment un de mes coups de cœur. Je ne comprends pas pourquoi ce film, vraiment, il m'a autant marqué. J'en ai fait de la pub à tout le monde. J'ai forcé ma mère à aller le voir, j'ai forcé toi à aller le voir. J'ai vraiment fait de la pub, voilà. J'ai fait de la pub sur le Discord, j'ai dit à tout le monde, allez voir ce film, absolument. Bref, il s'agit de L'Innocent de Louis Garrel. Et j'avais été voir déjà L'Homme fidèle de Louis Garrel, que j'avais pas trop aimé. J'avais trouvé ça vraiment sans plus. Alors pourtant, il était présent au Méliès, encore une fois, pour parler de son film et tout. Et c'était intéressant hein, ce qu'il disait, mais bon, le film, sans plus. Et là, j'ai adoré, parce que j'étais vraiment morte de rire du début à la fin. J'en pleurais de rire. Et je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré de rire au cinéma. Et toute la salle en était morte de rire. Et donc, L'Innocent, ça parle d'un garçon, interprété par Louis Garrel, qui montre qu'il sait être très drôle. Contrairement au film où on a été voir Caravage avec Marjo hier, avant-hier. Et il a un rôle très... du Louis Garrel.
Ouais,
quoi,
c'est ça, très sombre. Voilà, très genre, sombre. C'est Bruce Rock, quoi. Moi, à chaque fois que je le vois dans ce genre de rôle, je sais pourquoi il faut qu'il joue chez Bruce Rock un jour.
Alors que là, il a un rôle comique. Donc, on était là, oh, ok, il sait être drôle. Avec Noémie Merlant, qui est, mais pareil, à mourir de rire. Et donc, lui et donc, sa meilleure amie, Noémie Merlant, sont les deux personnages principaux. Et en fait, sa maman, Louis Garrel, va se marier même avec un mec qui sort de prison. Et il va, au départ, se méfier un petit peu, puis se rendre compte qu'en fait, il a peut-être raison de se méfier, mais prendre un peu part à toutes les combines. Et voilà, ça a été un de mes coups de cœur de l'année, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, si, je sais pourquoi, parce que j'ai adoré, mais tout, même l'esthétique des années 70 et tout ça. Et donc, voilà, ma banane d'or, c'est pour L'Innocent.
Ouais, j'avais bien aimé L'Innocent. Et d'ailleurs, petit aparté, cette année, depuis notre dernier enregistrement, j'ai commencé mon nouveau boulot à la direction d'administration pénitentiaire. Et on a discuté de ce film à une pause repas à un moment. Donc, voilà,
et trouvé ça réaliste ou pas?
Un de mes collègues qui l'avait vu, je ne sais pas s'il l'avait trouvé réaliste, en tout cas, il avait bien aimé le film. Bon.
Généralement, c'est que c'est un peu réaliste. Moi, je sais qu'en tant que prof, quand je vois des films où c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans un établissement scolaire, ça te fait sortir du film, forcément. Alors, la prochaine catégorie, il s'agit du Shoot Bruxelles d'or. Alors, peut-être que vous adorez les Shoot Bruxelles.
Désolé.
Nous, on n'aime pas ça. Et donc, du coup, c'est les films qu'on a le moins aimés cette année.
Ou qui nous a le plus déçus.
Ou qui nous a le plus déçus, ouais, c'est vrai. Ouais, on est d'accord là-dessus sur le film.
Ouais, ça va être Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Alors, pour moi, c'est vrai qu'en plus... alors, je ne sais pas si c'est ce film ou si c'est juste le fait qu'il arrivait à un moment où j'atteignais une overdose Marvel. Mais en fait, ce film a, pour moi, un peu cassé... mon intérêt pour Marvel, j'ai eu beaucoup, et j'ai toujours beaucoup de mal à me réintéresser aux productions Marvel depuis ce film. Je pense que c'est surtout un enchaînement, hein, mais parce que Spider-Man avant ne m'avait pas non plus transcendé. Mais ouais, Doctor Strange, je l'ai vraiment été très très déçue, parce que aussi ça gâchait, entre guillemets, ce qui avait été construit dans la série WandaVision, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, j'ai pas apprécié, et j'ai trouvé que là, pour le coup, on parlait de burger, blockbuster et tout, c'était trop. Et je suis pas fan en fait du style de Sam Raimi non plus. En vrai, je pense que je comprends la démarche artistique, la démarche visuelle, etc. Mais moi, ça m'a pas. J'ai pas accroché. J'ai trouvé ça. Je trouvais que l'histoire était pas si. Maligne que ça, alors que je m'attendais à un truc où j'allais être genre ah, je comprends pas, oh là là, c'est compliqué, mais du coup ça va m'obliger à réfléchir. Là, non, c'était pas compliqué, mais c'était pas intéressant. donc ouais, j'ai pas aimé ce film.
Ouais, moi pareil. Alors, j'attendais beaucoup aussi, parce que j'avais adoré WandaVision, la série, et que Doctor Strange, les films, ils font partie de mes préférés. Voilà, j'aime le personnage, Et puis là, on parlait enfin de multivers et tout, donc ouais, j'étais vraiment impatiente. Alors, moi, le style de Sam Raimi, j'ai bien aimé la réalisation. Le côté vraiment un peu film horrifique, j'ai trouvé que c'était bien fait, et j'étais contente qu'il parte dans un style différent. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est vraiment... Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Déjà, dans ce style, c'était « Ok, mais alors quel est votre public ?» par rapport aux séries comme Miss Marvel qui sort après, où c'est un public très jeune, qui c'est vraiment type ado qui est visé. Là, vous visez quoi? Un public plus adulte en faisant quelque chose comme ça? Ou toujours les ados? Enfin, et j'ai l'impression qu'ils se perdent un peu pour plaire à tout le monde, mais en même temps, du coup, une personne lambda va pas pouvoir tout suivre parce que tout sera pas forcément son kiff.
Ouais, et sans aller à fond non plus, là, il y a une scène vraiment dans un style horrifique. T'as un design qui est horrifique, mais plutôt dans le grotesque.
Ouais.
J'ai pas détesté le design, mais c'est plutôt, je comprenais pas trop les changements de ton.
Ouais.
Enfin, ça reste mm-hmm. et du coup, juxtaposition de scènes assez voilà, dans un style assez tranché, avec surtout des dialogues qui étaient mauvais.
Ouais. Non, et puis des facilités scénaristiques grotesques. Quand ils courent, ils se font poursuivre, ils entendent un bruit, ils s'arrêtent pour regarder derrière eux et ils attendent pendant 2 minutes. Les gars, elle est derrière vous, elle vous court après, qu'est-ce que vous faites quoi? Enfin, là, c'est pire que la fille qui dit « je vais sortir couper du bois dans la forêt quand elle est toute seule ». Enfin, c'est juste débile. Et puis trop de fanservice, autant dans Spider-Man, je trouvais que ça avait été bien fait le fanservice, autant là, c'était vraiment grotesque, ils ont présenté des personnages juste histoire de dire « Hey, regardez, on vous fait plaisir, on met un tel pour le tuer 2 minutes après, histoire de dire « Bon, ça va nous encombrer, on va pas savoir quoi en faire ».
Puis c'est un multivers, donc rien n'a d'important.
Ouais, c'est ça, et puis même le multivers en lui-même n'était pas hyper bien utilisé, à part dire « Voilà, on a fait un petit bond dans le multivers et puis on revient ». C'est tout, quoi. Après, ce qu'ils nous ont teasé avec Loki, WandaVision, je suis là, mais vous êtes sérieux, les gars?
Et même avec What If, l'épisode avec Doctor Strange, oui. De What If, qui était beaucoup plus intéressant que Doctor
ouais,
Strange.
Totalement. Madness. Donc, ouais, film déception de l'année. Et j'espère vraiment que Marvel va se ressaisir. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps où ils ont dit qu'en 2023, il y aurait moins de séries. Je crois qu'ils ont prévu que 2 ou 3 séries Marvel. Et ils ont dit qu'ils préféraient travailler sur la qualité plutôt que la quantité. Et ben, j'espère sérieusement qu'ils vont faire pareil avec les films. Parce que là, il y en a plein qui sont prévus. Entre Ant-Man, Les Gardiens de la Galaxie, The Marvel... Je n'ai pas d'autres en tête, il y en a peut-être que 3, mais déjà 3 gros blockbusters Marvel, ça fait beaucoup pour un an. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont s'améliorer là-dessus.
Moi, ça a vraiment marqué la fin de ma tentative d'être exhaustive dans Marvel. Maintenant, je me dis, bon, bah, je laisse tomber ça, je suis sélective et c'est pas grave si je suis pas tout. C'est quand même.
Ouais.
Il y a quand même une bonne partie du public qui n'est pas censée tout suivre et pour moi, ça devient important aussi qu'ils ne perdent pas. Qui part pas ça, qu'on puisse profiter d'un film sans que ça soit complètement dépendant du reste. Donc maintenant, j'attends ça aussi de Marvel. C'est pour ça que j'ai bien aimé d'autres séries, mais c'est un autre sujet. Donc, on va pas en parler.
En parlant de multivers, ça va permettre de faire une petite transition.
Ouais.
Puisqu'on va passer sur la catégorie « Le pain perdu ». Et donc, Le Pain Perdu, c'est le film qu'on est dégoûté d'avoir raté et que l'autre a vu.
C'est ça.
Parce que des films qu'on est toutes les deux dégoûtées d'avoir raté, il y en a plein.
Voilà, bah oui.
Mais là, le film que l'autre a vu et qu'on se dit, mince, j'aurais vraiment dû le voir.
Ouais. Et là, pour le coup, pourquoi on parle de multivers? C'est parce que le film que j'ai raté, et je suis vraiment dégue de l'avoir raté, parce que ça fait des mois que j'en entendais parler, parce que j'avais même des amis aux États-Unis qui l'ont eu du coup plus tôt que nous en France et qui me harcelait, enfin qui ne parlait que de ça depuis des mois, c'est Everything Everywhere All at Once, que j'avais vraiment très envie de voir, mais il est sorti pile au moment où j'avais vraiment vraiment pas le temps d'aller au cinéma, les joies d'être saisonnier en été, donc je suis vraiment déçue de l'avoir raté, parce que je sais, et puis toi tu as confirmé la hype autour de ce film, parce que tu l'as beaucoup aimé, je crois.
Ouais, j'ai adoré ce film. Pour moi, là, il y avait vraiment du multivers et des choses qui se passaient, de la réflexion et puis des thèmes abordés vraiment très beaux, le pardon, la famille, un super jeu d'acteur. Vraiment, ce film, pour moi, c'est une pépite dans le sens où il révolutionne un peu le cinéma. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de neuf, d'original, de... Ah, il n'y en a pas deux des films comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, personnellement. Et vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit « Waouh, je suis trop contente d'avoir vu ça. C'est différent. » Pour une fois, je vois un truc différent. Où je suis pas en train de me dire « Oh, ça ressemble à ci. Oh, ça ressemble à ça. » Pas du tout. Et moi, c'est pareil. J'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce ne me tentait pas du tout. Et c'est le cousin de Thibaut qui adore le cinéma, qui l'a vu en avant-première et qui nous a dit « Mais c'est le film de l'année, il faut absolument le voir. J'étais là, oula, ok, à ce point-là, bon, bah, ça me tentait pas, mais si, c'est vraiment le film. Et du coup, on a été le voir avec Thibaut, et effectivement, vraiment, j'ai adoré. Et il était nommé pour le meilleur scénario, mais il l'a pas eu. C'est les Banshees
d'Inisherin. Alors là, je comprends pas.
Parce que c'est les Banshees d'Inisherin que Marjo n'a pas trop aimé.
Les Golden Globes qui sont sortis juste après que je vois ce film il y a pas longtemps. Et je. Ok. Meilleur scénario. Je suis pas d'accord. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais je sais pas si Everything Everywhere All at Once mérite plus parce que je l'ai pas vu, mais non, je...
Ouais, il était nommé aussi en meilleur réalisateur, mais c'est Steven Spielberg qui l'a emporté, ça on peut rien dire.
On n'a toujours pas vu The Fableman.
Non, on l'a pas vu, mais c'est Steven Spielberg, voilà. Il est quand même excellent. Bon, c'est pas... voilà, on ne peut trop rien dire. Et Jamie Lee Curtis avait été nommée pour meilleure actrice dans un second rôle. Et je crois qu'il y avait une autre nomination et qu'il l'a eu. Du coup, Michelle Yeoh, elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice. Voilà. Donc vraiment... et puis, il était nommé aussi meilleur film musical ou comédie. Alors, il chante pas. Je crois que ça doit être pour comédie. Quoique, j'ai pas... Si, j'ai un peu rigolé quand même. C'est vrai qu'il y a des passages... Enfin bref. Donc, vous l'aurez compris, c'est un super film. Et Marjo est deg de ne pas l'avoir vu.
Oui, tout à fait. Mais je me rattraperai.
Oui, là, c'est sûr.
Et toi, alors, lequel t'as raté et que j'ai vu et faisait envie?
Moi, c'est compliqué parce que ceux qui me tentaient vraiment beaucoup, je les ai vus. Dans les gros films, grosses sorties, bah, j'ai pas vu Avatar, mais ça me tente pas. Donc, j'hésitais entre Buzz l'éclair, puisque je pense que ça peut être vraiment un Pixar qui va me plaire. J'ai jamais été une grande fan de Toy Story, mais là, de ce que j'ai vu, la bande-annonce, tout ça, je pense que ça peut vraiment bien me plaire. Et Le Petit Nicolas. Qui pareil me tentait beaucoup donc ouais ce serait peut-être plus le petit Nicolas parce que j'aurais moins l'occasion de le voir. Buzz il va finir par se retrouver sur Disney Plus donc ouais
bah oui ouais, c'est Buzz l'éclair parce que j'en ai pas parlé ça fait partie des bons films d'animation que j'ai vu cette année même si je pense que j'attendais un peu plus de Pixar ça fait partie quand même de cette vague de films Pixar qui sont pas tout à fait à la hauteur, à mon goût, de la qualité Pixar, même si Buzz Éclair, franchement, c'était quand même très sympa. Il y avait, c'était rien à voir avec Toy Story au niveau du ton et de l'ambiance, mais bourré de références à la science-fiction, à la fantasy, à plein de trucs qu'on connaît. Et donc, ça fonctionnait quand même bien, même si voilà, c'était... Il y avait tellement de bons films d'animation cette année que je le mets même un petit peu en dessous d'Alerte Rouge. Mais c'est quand même un bon film. Donc je pense que tu auras plaisir à le rattraper quand tu
vas. Ouais, ça ne m'étonne pas. J'allais dire je vais attendre 3 ans, mais non, la chronologie a changé et je crois que je dois attendre 2 ans. Ou 1 an et demi, je ne sais plus, ce qui me va très bien. La dernière catégorie avant de passer au grand popcorn d'or est la cerise d'or, the cherry on the cake. Et du coup, notre cerise d'or, c'est la meilleure interprétation. Et trop marrant parce que celui que j'ai choisi, il a gagné le Golden Globe. Youhou ! Effectivement, c'est mais à 100% mérité quoi. Enfin, il n'y a pas photo, enfin pour moi, désolée. Il s'agit de Austin Butler dans Elvis. J'ai adoré ce film, mais moi je suis une grande fan du style de Baz Luhrmann. J'ai kiffé tous ses films parce que j'ai une tendance un peu... j'ai des troubles de l'attention et en fait le fait que tous ces films soient un peu... comment dire ? Pas pour des gens...
Épileptique.
Ça bouge beaucoup, il y en a dans tous les sens, c'est hyper coloré, tu sais pas où regarder. Moi, ça m'accroche, mais grave. Et du coup, ouais, j'ai toujours aimé son style. Et là, Austin Butler, moi, je le connaissais dans une série The Carrie Diary. C'est le préquel de Sex and the City sur l'adolescence de Carrie Bradshaw. Et il jouait l'ado un peu bené, bad boy, qui sort avec Carrie. Enfin, voilà. Et là, de le voir transformé en Elvis, je le reconnaissais plus du tout. C'était Elvis. Franchement, mais incroyable, et je suis à deux doigts de m'acheter le DVD.
Oui, alors que bah moi, alors je reconnais totalement le fait que Austin Butler mérite le Golden Globe parce que autant Elvis, ça n'a pas été mon film préféré de l'année, j'ai eu un peu de mal avec ce film, surtout avec certaines parties du film qui sont trop pour moi, parce que là, pour le coup, moi, le style de Baz Luhrmann, je peux bien aimer, mais là, c'était un peu trop fatigant. Parce que moi, je suis pas du tout, j'ai pas besoin d'autant de stimulation, et ça a plutôt tendance à me donner un peu le vertige. Donc c'était un peu too much pour moi, et j'ai pas aimé par contre, par exemple, l'interprétation de Tom Hanks dans Elvis. Donc ça m'a un peu fait sortir du film. Mais par contre, bon, je reconnais qu'Austin Butler a été excellent, excellentissime. Mais moi, je voulais pas. Ne pas mentionner quand même un des films qui était très important pour moi cette année, puisque ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, c'est Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, qui était quand même un gros 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 événement pour moi, en tant que membre très actif du fandom des Animaux Fantastiques. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai également un podcast sur les Animaux Fantastiques, je participe à un podcast exclusivement sur les Animaux Fantastiques, donc quand on sait que ça faisait... depuis 2018 qu'on attendait la sortie de ce film.
C'est vrai.
Voilà. Donc, je décerne ma cerise d'or à Jude Law pour son interprétation de Dumbledore, puisque même si j'aurais pu la donner à Mads Mikkelsen, qui fait un excellent, excellent Grindelwald, voilà, le Dumbledore de Jude Law, pour moi, c'est le meilleur Dumbledore qu'on ait jamais eu. Et j'adore Jude Law, j'adore le personnage de Dumbledore, j'adore le développement du personnage qu'il y a dans ce film, même si c'est pas un film parfait. Que j'en ai même pas parlé dans mes Burgers d'or parce que il a quand même déçu pour certains points. Il est pas avec toutes les attentes qu'on a dessus, il les a pas remplies, mais en même temps il pouvait pas les remplir parce qu'il y avait trop d'attentes. Mais voilà, je le mentionne quand même parce que c'est, voilà, si vous l'avez pas vu, rattrapez-le parce que c'est quand même un bon film. Si vous avez pas aimé Les Crimes de Grindelwald, vous pouvez quand même aimer Les Secrets de Dumbledore, et parce qu'il est quand même plus facile à aimer, on va dire, et Jude Law est incroyable dedans, donc voilà.
Là, il aurait pu avoir mon popcorn d'or, en fait, enfin mon pain perdu d'or. En vrai, c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée de l'avoir raté, parce que je l'ai pas vu parce que j'ai vu pas mal de critiques négatives, j'avoue, et que c'était un moment où j'avais pas trop le temps d'aller au cinéma et je voulais pas voir un film qui allait un peu me décevoir. Et je voulais me refaire juste avant les deux premiers, et j'ai pas eu le temps, donc enfin, c'était pas le bon moment, et je me suis dit, bon, mais tant pis, voilà.
Je viendrai chez toi avec le Blu-ray.
Ça marche, on se fera un marathon avec les trois d'affilée, et que tu me racontes tout ce que je comprends pas. Parce que pour info, j'ai vu quand même les premiers ou le deuxième, et j'ai demandé à Thibaut de m'expliquer des trucs parce que je pigeais pas. Alors qu'il est pas du tout fan de la franchise, et qu'il se connaît pas grand-chose, mais il comprenait déjà mieux que moi. Trop de personnages. Et on va pouvoir passer aux grands pop-corn d'or, enfin!
Donc les grands pop-corn d'or, c'est notre grand prix, avec quelques règles, puisqu'on a sélectionné uniquement des films qu'on a vus toutes les deux. Donc déjà, forcément, ça réduit la liste, puisque peut-être que Everything Everywhere All at Once aurait pu avoir le grand
oui,
pop-corn d'or si on l'avait vu toutes les deux, hein, c'est pas impossible. Mais non, il a fallu réduire. Du coup, on a réduit à 4 nominés. Donc évidemment, on en a déjà parlé, mais The Batman.
Top Gun Maverick.
Évidemment. Glass Onion, qu'on n'a pas mentionné dans les catégories, mais qu'on a toutes les deux vues et beaucoup aimé. La suite.
Ouais, et d'ailleurs, il était nommé dans les Golden Globes aussi. Hein.
Et oui,
j'ai vu ça.
Donc c'est la suite de À couteau tiré, hein, si vous n'avez pas suivi. Enquête à la Agatha Christie un peu, même si c'est une histoire originale.
C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans les bananes d'or. Il était
ouais,
très drôle.
C'est vrai que j'ai beaucoup rigolé. C'est vrai.
Très très drôle.
Ouais.
Et en dernier, Alerte Rouge, parce que c'est quand même un bon film d'animation qu'on a aimé toutes les deux.
Ouais.
Je pense qu'on aurait pu mettre Le Chapeautier 2 également si je l'avais vu. Okay. Je l'ai pas mis dans mon pain perdu parce que clairement j'ai une place pour ce week-end pour aller le voir. Donc voilà. Si on avait encore décalé, si jamais on fait un troisième enregistrement, voilà, ça sera peut-être lui.
Si on fait un troisième enregistrement, on va être obligé de passer au Popcorn d'Or 2023. Là.
C'est ça. Donc voilà nos quatre films. Bon, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de grand suspense sur notre vainqueur, malheureusement.
Ouais. Bah, c'est vrai que dans cette sélection, on en a déjà parlé sur nos choix dans le Burger d'Or, puisque bon, c'est tous des films qui auraient pu aussi aller dans les... Enfin, qui ont été ou qui auraient pu aller dans les Burger d'Or. Bah, The Batman, ça reste quand même un film marquant pour nous cette année. The Batman, qui n'a rien reçu au Golden Globe, je crois.
Ouais, bizarrement.
Vengeance, on lui donne notre popcorn d'or. Notre grand popcorn d'or.
Notre grand popcorn d'or. Bravo, The Batman.
Donc voilà, on n'était pas d'accord tout à fait avec les Golden Globes, donc raison de plus pour faire ces popcorn d'or. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner vos propres popcorn d'or sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord, à partager vos avis, et partager vos films préférés de l'année. Peut-être que ça va rejoindre nos pains perdus, puisque peut-être qu'il y a d'autres films que vous avez vus qu'on aurait aimé voir. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et comme on l'a dit, on a parlé de films dans cet épisode, mais très bientôt, puisqu'il est déjà enregistré, vous allez avoir les Popcorn d'Or édition série, puisqu'on a vu aussi beaucoup de séries en 2022 et pas mal de très bonnes séries. Donc on va en parler dans le prochain épisode, donc ne ratez pas ça si vous aimez aussi les séries. Mais on imagine que vous aimez les séries si vous écoutez Popcorn Therapy.
Ouais. Eh bien, bonne journée, soirée à tous, et puis du coup, à très bientôt. Et pour une fois, on peut le dire sans mentir.